Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue sur Divergence FM pour l'émission hebdomadaire de cinéma. Nous sommes le mercredi 11 avril et le studio est absolument complet puisqu'il y a l'équipe habituelle de Cinérama. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Bonjour Manu.
Bonjour.
Et puis il y a aussi une petite partie de l'équipe des kinos pour parler du kino cabaret. Bonjour Marion, on commence par les filles.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et bonjour, j'ai oublié.
Anthony.
Anthony. Bonjour Anthony. Donc ça, ce sera en milieu d'émission. Nous parlerons donc de ce kino cabaret qui va se dérouler pendant 10 jours, c'est ça? Voilà.
Oui.
10 jours avec des petits films à monter en très peu de temps. Vous en saurez plus donc en milieu d'émission. Sinon, on va parler de quoi?
REC 3, entre autres, de REC 3 Genesis de Paco Plaza.
Et toi, Marie?
Et pour ma part, Radio Star. D'ailleurs, on a réalisé une interview pour l'occasion du réalisateur et des acteurs. Et puis, je vous parlerai également de Titanic 3D et de À moi seul.
Et puis, on écoutera donc l'interview de l'équipe de Radio Star. On écoutera aussi Souma de Quilombo. On l'avait eu la semaine dernière par téléphone. Donc là, je me suis entretenu un peu plus longuement avec lui pour parler de son festival qui s'achève ce dimanche. Et puis, on aura l'occasion de jouer aussi un blind test autour des...
Spécial bateau qui coule.
Voilà, pas bateau qui coule, mais spécial bateau sur l'eau. Voilà, ça aussi, ce sera en milieu d'émission. Et on jouera avec tout le monde, mais on commence avec Aux yeux de tous.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Conneries, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Aux yeux de tous est le premier film de Cédric Jiménez, un film au parti pris audacieux puisqu'il s'agit de nous raconter une histoire quasi exclusivement avec des images salopées de vidéosurveillance. Bien sûr, les trucages sont au rendez-vous. Alors le scénario est simple, un hacker, soit un spécialiste en informatique et pas forcément un méchant, a un accès privilégié aux milliers de caméras de vidéosurveillance disposées dans Paris. Il parvient à récupérer la bande vidéo d'un attentat commis dans une gare en pleine période d'élection. Attentat, disent le gouvernement et les médias, signé par des radicaux islamistes. Mais notre hacker, en scrutant les images, arrive à identifier qui a posé la bombe et encore mieux, à trouver des complices. Il s'empresse donc de tirer les fils de caméra en caméra et de webcam en webcam pour mettre à jour une machination qui va des simples exécutants, des bougres sans le sou, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Alors tant qu'à faire, autant tirer un bon coup sur la ficelle du complot dont nous, pauvres citoyens, sommes les victimes bien innocentes. Alors pour nous mettre dans l'ambiance, Cédric Jiménez a monté 950 plans pour un peu moins d'1h25 de film, ce qui n'est sûrement pas un record, mais ça commence à faire une bonne statistique. Alors j'y ai réfléchi 5 minutes sans vraiment faire une enquête approfondie, mais il me semble quand même que certains plans sont quasi impossibles à obtenir avec le son, car oui, si l'image nous est donnée par une caméra de vidéosurveillance, il n'y a aucune raison pour que le son provienne de cette source-là. En tout cas pour la majorité des caméras de vidéosurveillance. Mais admettons et arrêtons-nous sur la forme. Alors très vite, on est témoin du pouvoir de ce hacker surdoué, de cette puissance absolue de tout voir ou presque. Car oui, s'il peut voir les caméras du domaine public et privé, il peut aussi enclencher votre webcam. C'est là où c'est peu vraisemblable aussi, puisqu'il faudrait quand même un minimum de temps pour réaliser l'opération qu'il parvient, lui, à effectuer en un clic ou deux. C'est donc en puissance un réalisateur dont on suit les exigences de plan en temps réel. Ce hacker nous est montré de dos, avec ses écrans à disposition et tout son arsenal technique. On le voit tapoter aussi, et puis Cédric Jiménez nous laisse voir des bouts de son visage. On comprend vite que le hacker restera anonymous toute une partie du film. Alors que fait ce voyeur de la bande et de ce qu'il sait? Eh bien il mène l'enquête, tout seul, dans son coin, à coups de post-it, de punaises disposées sur une carte, et n'hésite pas à intervenir dans la vie de ceux qui l'épient, en leur montrant qu'il sait beaucoup de choses, mais à trop jouer, ça tourne mal pour ceux qui sont observés.
Et en cette veille d'élection présidentielle, le climat reste extrêmement tendu dans le pays.
Quelqu'un a réussi à mettre la main sur la vidéo de la gare.
On voit quoi exactement sur cette vidéo?
On voit tout.
Putain, ça, ça devait pas exploser.
On peut pas revenir en arrière.
Oh putain! Oh putain, ça me regarde! Oh non, mais c'est les images!
Calme-toi!
Mais pourquoi on a fait ça? Tu réalises ce qu'on a fait? On a tué des gens, Sam!
Si on les balance, on est mort. En prison, on est cuit. Je peux en croire avec elle, elle est où là?
Si la situation t'échappe, je m'en occupe moi-même.
Voilà, ça, on se rend un peu compte voilà, de l'atmosphère sonore au moins. Alors l'idée de départ est assez réjouissante, faire un film avec des plans imposés, de pauvre qualité et qui plus est, issu d'un système de sécurité. Alors ce filon de l'ultra-surveillance pour notre prétendue sécurité n'est hélas pas du tout traité. Nous ne sommes pas, avec aux yeux de tous, confrontés à une vision politique, même si effectivement eh bien, on est vite frappé par les possibilités d'être vu sur tous les angles, tandis qu'on se contente d'aller au cinéma, de marcher dans la rue ou d'acheter notre salade. Alors le thriller ne sert qu'un vague propos conspirationniste, rien de plus. On reste dans le registre du spectaculaire, de « je vous en mets plein la vue, on verra après si on a le temps de réfléchir ». Alors quoi que réfléchir, on pourrait s'en passer au cinéma, mais au moins, eh bien, on pourrait nous permettre de se mettre à distance un minimum. Alors c'est un peu dommage puisqu'on a guère le temps de souffler, 950 plans et pas tous folichons, c'est pas qu'on frise la crise d'épilepsie, mais ça ne s'arrête quasiment jamais. Alors la pauvreté et le peu de dialogue amènent le réalisateur à se tourner vers la musique, de l'électro évidemment, on en a écouté un petit extrait. Alors autant rester dans les beats, c'est une musique omniprésente, pas toujours bien dosée, avec quelques envolées de violon, du plus mauvais effet quand notre hacker se met à avoir un faible pour ses petits rats de laboratoire. Alors le trop-plein de musique supprime la tension que le réalisateur aurait pu laisser monter ici et là, et la mauvaise qualité des images bien volontaires nous transforme en parfait voyeur, mais les dialogues qu'on perçoit avec un son creux qui ferait penser à une vidéo presque amateur peinent à nous intéresser, et le jeu d'acteur du coup en pâtit. Alors l'idée était brillante, la réalisation a un défi, mais le scénario trop simpliste et la mise en scène répétitive nous enlèvent peut-être la saveur de voir dans ce premier film autre chose qu'un thriller avec une originalité mal exploitée. Voilà, par ailleurs, tu l'as peut-être vu Manu ?
Non, j'ai pas vu.
Ah bon, tu t'approchais du micro, je me suis dit ça y est, il a quelque chose à dire, mais non. Donc aux yeux de tous et projeté au Gaumont Multiplex.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et on passe à Radio Star. Alors Radio Star raconte l'histoire d'une bande d'animateurs radio qui font un carton avec leur émission, un peu comme nous, sauf qu'eux, ils officient sur une radio vraiment pourrie, genre énergie, menée par Clovis Cornillac, animateur et accessoirement connard en chef de la troupe. L'équipe du Breakfast Club réveille chaque matin des millions d'auditeurs à grands coups de vannes douteuses et de canulars téléphoniques. Ben, aspirant humoriste qui revient de New York, largué dans tous les sens du terme, se retrouve pistonné au beau milieu de l'émission pour intégrer l'équipe, au moment où ils doivent partir sillonner la France pour un ultime coup de promo. Un road trip salvateur pour tous qui s'achèvera sur un happy end larmoyant, faiblesse que l'on pardonne facilement, car c'est souvent par la fin que pêchent les scénarios des comédies. Annoncé comme le grand succès français de l'année, Radio Star n'a au moins pas la prétention d'être une comédie des mœurs comme l'étaient Les Infidèles. Ici, l'humour est vulgaire mais bon enfant, et les Parisiens en prennent pour leur grade avec un réalisme transcendant grâce à quelques personnages hauts en couleur et à un rythme qui tient bon. On est tout de même loin d'être devant une onde de choc comme l'annonce première, car à force de vouloir être branché, eh bien, cette comédie sans prétention finit par être trop connotée 2012 pour prétendre à devenir un monument intemporel de cinéma. Allez-y quand même, ça décape gentiment, sans pour autant laisser de traces indélébiles, dans votre subconscient cinématographique. Alors nous avons rencontré le réalisateur Romain Lévy, ainsi que Manu Payet et Clovis Cornillac. Le réalisateur qui a d'ailleurs voulu entre autres nous faire croire que si le premier rôle était joué par le fils du producteur, ce n'était qu'un pur hasard et c'était uniquement dû à ses talents d'acteur. Enfin bref, Missa, il nous parle de plein
mais
de
non,
choses.
En fait, effectivement, c'est bien le fils du producteur qui joue ce rôle.
Oui, et c'est un pur hasard. C'est uniquement dû à ses grands talents. Eh bien, je vous laisse tout de suite écouter tout ça.
1, 2, 1, 2, 3. Blast FM.
Bonjour, de retour dans le Breakfast, l'émission qui vous tire la tête du cul.
Tu la pèses, hein, tu la timbres, mais classe.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Alors tu veux dire plus jeune?
Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair, là?
J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter. Comment tu t'appelles?
On m'avait juste dit de passer comme ça.
Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri.
Il y a des combats qu'on mène à travers le film. C'est-à-dire que c'est, il y a le film et puis aussi, moi je le vois aussi comme un véhicule pour prôner plein de choses, pour prôner le retour à des films qui ont une identité française véritable. Vous avez pu voir que dans la construction, on est un peu à l'américaine sur la fabrication de l'histoire, sur la structure et tout ça, mais la sensibilité, Clovis qui fume des clopes et qui hurle, Pascal qui est post-68ard, Manu qui essaie de mettre des nanas dans le lit de Douglas, enfin tout ça, pour moi ça participe de notre identité et j'ai jamais trop bien compris pourquoi on avait abandonné notre esprit de tête de con. Je trouve ça très cool en fait, c'est une des composantes chouettes de notre pays. Et c'était un des combats du film, donc ça c'est chouette, pouvoir proposer des comédiens. Évidemment vous connaissez Clovis, il y a Manu qui va arriver à mon avis dans 2-3 minutes. Et Pascal, pas dans la comédie, mais là il vient faire un bon film de comédie avec nous, c'est une nouveauté. Mais il y a aussi d'autres jeunes comédiens et aussi de se dire voilà, moi je fais mon premier film. Et je veux dire, c'est un de mes combats, c'est ça qui nous donne la force aussi de promouvoir tout ça. C'est de se dire, regardez, on peut vous proposer des talents qui ne sont pas ceux que vous voyez à longueur de journée, dans des trucs un peu préfabriqués, pondérés, lissés, pour que ça puisse passer à 20h30 sur des grosses chaînes. Nous, on s'en est contrefoutus quand on a fabriqué le film, parce que notre désir, c'était de proposer un plaisir de cinéma valable. Pas vous payer 10 euros et vous avez envie de tuer les gens, de vous avoir montré toutes les vannes dans la bande-annonce. Enfin, on l'a fait comme des spectateurs, quoi. Donc aujourd'hui que ça se partage un petit peu, voire même largement au-delà de nos espérances.
On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été.
Chez les gens?
Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience.
Qu'est-ce qu'il fout là, toi?
Smithers m'avait dit que...
Apprends à terminer tes phrases, c'est chiant, putain.
Et là, je vous ai rajouté un petit morceau de farigoule.
Non, mais c'est du comté, du Chèvre et du Saint-Nectaire. Est-ce que vous pouvez être couillons, les Parisiens, quand même?
Histoire de sortir la radio dans les campagnes.
Ouais.
Est-ce que vous avez pompé sur les... schéma de campagne des hommes politiques présidentiels, c'est eux qui vous ont pompé?
Non, j'avais pas du tout fait ce calcul-là. Non, moi j'ai pompé sur mes problématiques à moi. C'est-à-dire que, comme vous me demandiez tout à l'heure, si je mangeais, si j'avais changé d'alimentation, si je me connaissais un petit peu plus en spécialité locale, je suis nul en géographie française. Et en même temps, c'est un peu honteux, surtout quand on se propose au public de faire un film français. Mais c'est justement, le film, c'était l'occasion de découvrir la France, de se nourrir moi-même de mes propres, de mon petit snobisme de parisien idiot, me dire ah ben c'est marrant quand même, de se sentir paumé, de gueuler dès qu'il y a un truc, dès qu'on peut pas trouver de clope après 11h, d'avoir des petites problématiques. Je me rappelle, il y avait un exemple qui était très amusant, quand Mathieu et moi on a fait une sorte de premier repérage, quand on écrivait seulement le scénario pour essayer de vivre un peu ce qui leur est arrivé, l'histoire du crapaud dans le film, ça nous est arrivé. Et je me rappelle, comme des couillons, on s'ennuyait un soir et j'étais voir le réceptionniste, j'ai dit mais vous connaissez un endroit qui bouge? Et le mec il m'a regardé, il m'a dit mais pourquoi voulez-vous que ça bouge? Et j'ai regardé Mathieu, j'ai dit bah c'est vrai, en même temps on peut très bien se parler, se foutre devant le porche, devant la baraque et vivre son existence sur un autre rythme, peut-être même en étant moins malheureux, probablement, en étant plus en phase avec les autres. Je ne veux pas rentrer dans l'altruisme un peu crétin et condescendant, sous une fausse politesse, de dire qu'on a le temps de comprendre sa vie quand on est ailleurs qu'à Paris. Je ne dis pas ça, je pense qu'on peut être un gros con en région comme un gros con à Paris, et un type formidable ailleurs, il n'y a pas de règle. Mais c'est sympa de changer de rythme de temps en temps, et puis moi qui n'avais pas cet élan naturel, j'étais content de m'y confronter.
Il n'est jamais trop facile de parler de soi-même ou d'interpréter des personnages que l'on a été dans la vraie vie. Comment ça s'est passé pour vous, Manu Payet?
En fait, au départ, j'étais très très perturbé par le fait de devoir me jouer moi. Et donc, je leur ai demandé d'éloigner un petit peu plus le personnage de moi pour que je puisse m'accrocher à des trucs, quoi. Et là, c'est effectivement plus simple à ce moment-là de savoir comment appréhender un personnage, ce rôle, même si ça se ressemble un peu, il y a des trucs voilà, qui sont pas exactement la vérité.
Moi aussi, j'aurais bien voulu être dans les médias, tout ça, un peu comme vous, quoi.
Bah comme nous, ouais, exactement pareil.
Mais bon, mon père m'a dit que tout était aux mains des... Je suis fin, j'ai de l'argent sur ma vie, je vais te faire gagner de l'oseille.
On va s'acheter des Rolex en or.
Aïe, 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 aïe. Le ciné, la télé, les banques, les magazines.
Ils ont tout.
Tout. Mais faut être juif pour réussir dans les médias.
Ouais. Ou alors faut être pédé.
Ou pédé. C'est clair.
Allez au gros pédé, tiens, vas-y, moi un coup. Quoi?
Deux petites secondes, je vais au Wawa.
Ah, va au Wawa, dis donc. Mec, je me casse d'ici, c'est une nazie. On en a rien à foutre, tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec
mec,
ta toque.
Je m'en fous de son cul, je suis juif, je vais pas baiser Hitler. C'est Hitler avec un BEP coiffure.
Monsieur, je crois que vos toilettes sont bloquées, hein. Ou alors il y en a un qui est en train de libérer Mandela.
Bon, ok, c'est une ordure. Tu me la baises sale, tu me la baises violent, mais tu me la baises.
Il y a des vannes qui sont un peu, comment dire, qui bousculent un petit peu dans le film, mais en vrai, ça bouscule pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, le politiquement correct est le politiquement correct. Donc c'est ridicule de se prendre pour un rebelle sous prétexte qu'on dit deux, trois trucs qui griffent un petit peu. Et je dois dire que les vannes qui fonctionnent le mieux, elles étaient même pas dans le script, c'est des vannes des fois qu'on a trouvées sur le plateau, en interaction avec le décor, et tout le monde est le papa de trois beaux moments de rigolade parmi les comédiens, même des fois parmi l'équipe technique. C'est un film qu'on a fait de très très près avec l'équipe. Ils sont pas venus juste pour amener un savoir-faire, c'est un film qu'on s'est partagé. Parce que moi, je fais un premier film, donc évidemment je sais pas tout. Je suis loin de savoir tout ce qu'il faut faire techniquement pour faire un film, même encore aujourd'hui. Et c'était un plaisir de s'en remettre à des gens qui font 4, 5 films par an, qui savent beaucoup mieux que vous. Et quand en plus ils ont un talent de malade et que c'est des bons gars, c'est génial, quoi, parce que vous avez pas un rapport de tyran du mec qui dit je sais tout et en fait au fond de lui qui est tétanisé. Non, vous avez encore plus confiance parce que vous savez que vous êtes avec des gens impliqués. Et ça apporte une implication collégiale très sympa, quoi. C'est un moment très heureux à vivre quand tout le monde se partage un truc que vous avez initié en peignoir chez vous avec votre pote, quoi.
Quand je disais, moi, le sentiment d'un film moderne, c'est qu'en fait, et ça, Romain, et avec évidemment Mathieu, mais je parle du réalisateur, c'est comme si le gars avait digéré le cinéma américain sans en faire une reproduction. C'est-à-dire, il a sa propre culture qui est française et on voit bien que dans l'humour, dans le rythme ou dans les archétypes qu'on représente.
C'est ma voix qu'ils entendent en premier, avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron. J'ai qu'une chose dans ma vie, c'est cette émission.
Là, il est pas bien. Non, bah, il est en position d'attaque. Il va lui attaquer les yeux, là.
Pendant des années, on a parlé à des gens. Pour nous, vous étiez des lettres, des chiffres. Aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, on vous voit. On a fait connaissance. Nous, c'est le Breakfast Club. Enchanté.
La musique, Arnold, la musique.
Mister, dernier mot.
Et allez, je te le laisse, le dernier mot. Hein.
Tu vas voir, il va reparler, là.
Voilà, donc désolé pour le son un petit peu mauvais à certains moments. Nous étions sur le toit de l'hôtel Pullman.
Excusez-nous.
Au bord de la piscine, il y avait un petit peu de vent, donc c'était pas évident. Donc voilà, si vous voulez voir Radio Star, ça sort donc aujourd'hui. Et puis évidemment, dans les multiplex, Gaumont Comédie et Gaumont Odysseum.
Voilà, bon, ils ont fait une grosse promo, mais ça reste un film à voir.
C'est pas mauvais, ça va. Voilà. C'est drôle.
Allez, maintenant, on passe au kino.
Sinon, pour faire simple, on aurait pu dire que le Kino Cabaret, c'est du 12 au 21 avril, que c'est 9 jours pour faire des films et que c'est à Montpellier.
Voilà, c'est la bande-annonce donc, du Kino qui a eu cette idée d'ailleurs d'associer Kino à Bollywood. Ah, il faut parler dans le micro. Anthony.
Eh ben, en fait, pour cette petite histoire, en fait, ça résume un peu Kino aussi parce que c'est Marion qui m'appelle et qui me fait ouais, il faudrait un teaser de Kino. Je fais bah, pas de soucis, pour quand ? Et elle me fait bah, le mieux, ça aurait été pour la semaine dernière, mais si tu peux faire pour la fin de celle-ci, ça serait très bien. Je fais bon, bah d'accord, on se rappelle, etc. Je dis bah, un petit truc raga ou quoi ? Elle me fait bah, je connais une chorégraphe Bollywood, peut-être que. Je fais bon, bah c'est parti, on fait un Bollywood. On trouve une grue à droite, on trouve des gens à gauche et on se retrouve sur le Pérou avec votre chroniqueuse émérite qui oui. Nous chante un joli petit.
Je ne sais pas ce qu'il parle. Oui,
bah si, d'ailleurs, tu pourrais refaire cette voix, Marine. Marine, refais la voix.
En fait, ce n'était pas ma voix, elle a été transformée. Génétiquement.
Donc déjà, d'accord. Là, tu avoues que c'est toi. Et bah, vous pouvez revoir le teaser sur le site du Kino, d'ailleurs.
Oui, et dans l'article consacré à cette émission.
Tout à fait.
Alors donc, on parle de ce Kino. Alors le Kino, enfin, cette... Cette expression Kino et ce mouvement, en fait, a fêté ses 10 ans. C'était en 2009. C'est un grand mouvement, hein, enfin, qui date de quelques années déjà. Hein.
Oui, oui, c'est un mouvement qui est né en 1999 au Québec. Et actuellement, il y a environ 70 cellules comme la nôtre dans une vingtaine de pays autour du monde.
Et en France, j'imagine que la section de Montpellier est relativement active.
Ah oui, oui, oui. Hein, elle est bien dynamique, oui.
Et c'est pour ça donc, que vous organisez ce Kino Cabaret International. Alors, donc ça veut dire que vous conviez en fait tout un tas de participants qui viennent de tous les pays.
Toutes les cellules sont invitées à venir participer.
Et alors, comment ça se passe? C'est un peu la débrouille pour l'hébergement comment, oui?
Alors, ceux qui viennent d'autres cellules sont logés chez les kinoïtes montpelliérains. Et après voilà, pour tout le reste, on s'arrange. On a le lab, qui est la salle, le QG, qui sert de ralliement, qui est 24 heures sur 24 ouvert pour les participants. Et là, on mange ensemble. Et puis, toutes les.
Il y a des matelas par terre, ce genre de choses?
Un petit peu. Mais c'est quand même avant tout un endroit de travail.
Alors, on va parler du principe. Donc, qui peut donner la définition d'un kino, Mathieu, peut-être?
La définition d'un kino, c'est le regroupement d'éléments humains qui vont s'agglomérer comme ça pour fabriquer et produire des films sur un temps limité. Là, ce qui commence demain, c'est un cabaret. Donc, c'est faire des films en 48 heures, 72 heures. Donc demain matin 10h, il y a une réunion de production, les gens viennent, se présentent, donc les gens sont volontaires et disent ce qu'ils ont envie de faire sur ces prochaines 24 heures ou 72 heures. Et de là, mûrissent des projets. Donc il y a un premier tour de table pour présenter les gens, un deuxième tour de table pour présenter les idées qui commencent à émerger. Ensuite, les idées s'ajoutent au fur et à mesure, parce que des fois, il y en a qui arrivent, qui émergent 2 heures avant la projection et qui sont réalisées dans le feu de l'action et atterrissent.
Deux heures avant la projection.
Oui, il y a des choses.
D'accord, ok.
Des spécialistes là-dessus. ce sont des films plutôt courts, hein. C'est plutôt ce qu'on appelle des quickies. Une idée, un plan séquence souvent et ça fait bien rigoler souvent. Et donc voilà, donc les projets sont au tableau et tout le monde peut participer à tous les projets. C'est pas des groupes qui vont se tirer la bourre ou quoi. C'est voilà, il y a plein d'idées qui sont en train de sortir et c'est de savoir voilà qui on va travailler. On va croiser les compétences pour arriver à faire vivre un peu, faire atterrir à l'image tous les
d'accord.
Projets.
Ça veut dire que concrètement, par exemple, un kinoïte qui vient d'Allemagne pourrait très bien se retrouver dans un petit film qui va se construire pendant les 48 heures avec une équipe à dominante montpelliéraine. Comment ça se passe?
Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Si une personne est venue pour faire... Pour faire que du son, par exemple, dans son coin, et ça se trouve, il va se retrouver à poil dans une salle de bain en train de jouer sur tout un film de 10 minutes. C'est, tout peut arriver, quoi.
D'accord. Donc ça veut dire que oui, voilà, on peut venir avec une fonction, avec une envie de faire quelque chose, et on peut se retrouver finalement à faire complètement autre chose.
C'est surtout que dans le câble, il y a une énergie, tout le monde est là, et dans cette énergie, ça réveille pas mal de choses. Il y en a qui viennent comme ça un peu, voilà, je suis acteur, ouais, je vais faire un peu quelques films, ça va me faire un peu un book, et puis finalement, ils finissent à passer des nuits là, ils sont défoncés, et puis ça sort, et ils écrivent sur un coin de table, et voilà.
Ils deviennent scénaristes.
Voilà, ça part, n'importe qui, voilà, dès qu'il y a une idée, il y a quelqu'un qui est là, qui a une caméra, ouais, t'es dispo, ouais, j'ai une heure, bon, voilà, j'ai une idée, on y va. Et ça peut démarrer comme ça, souvent.
Alors j'imagine qu'il y a une diversité de talents parmi ceux qui fabriquent ces kinos. Comment ça se passe pour les projections publiques? Est-ce que ça devient uniforme quand on regarde une soirée kino?
Surtout pas. Surtout pas. On voit de tout, donc il n'y a aucune censure. Moi, je reçois les clés USB quand elles arrivent à la projection et chaque réalisateur présente son film. Donc, il présente son film, il est auteur et il assume. Il y en a qui s'excusent des fois, il y en a qui assument. Enfin, on a tous les caractères se retrouvent dans les films de toutes les façons. C'est ce que moi, quand j'étais à Montréal et tout, quand j'ai fait mon premier kino en 2005, j'ai fait. C'est génial parce que on croise des gens dans le cabaret, on voit un peu leur personnalité et puis on voit leur premier film ou quoi. Et c'est génial. On reconnaît la personne avec qui j'ai passé quelques heures avant. C'est ça qui est assez génial, quoi. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'écriture. Chacun a son écriture, c'est la diversité qu'on peut trouver dans l'humanité.
Ok, voilà. Donc c'est ce que vous recherchez.
Oui, voilà, il n'y a pas de d'élitisme, quoi.
Alors sur le principe, donc, on a compris que les kinoïtes se rassemblent donc à la Maison pour tous, hein, c'est ça?
Frédéric Chopin.
Ensuite, réunion de production, ils tournent des films. Donc là, ça veut dire qu'il peut y avoir un appel à auditeurs, hein, s'ils veulent participer à cette aventure collective. Ça, c'est le premier point. Donc comment on fait, pour le coup, pour participer, si on est intéressé?
Donc, oui, donc la participation est ouverte à tous. Et pour participer, il faut venir ce soir au chapitre à 20h où on fait une soirée d'accueil et de présentation, ou alors lors des réunions de production. Donc là, on fait 3 sessions, donc il y aura 3 réunions de production, une le 12, une le 15 et une le 18 à la Maison pour tous, donc Frédéric Chopin. Vous avez toutes les informations sur notre site internet.
Que tu peux citer, oui.
kino-mtp.fr.
Donc après ces réunions de production, donc voilà, les gens partent dans la nature, dans la ville, un peu partout, ils réalisent leur film et la projection a lieu donc 48 heures après, si j'ai bien compris. 48, 72.
Ouais, je crois que ça fait plutôt 50 heures là sur nos 2 premières sessions.
Cette formule-là, ouais, on est sur 50 heures, je pense.
Voilà, donc ça veut dire que si vous êtes curieux, ensuite, vous pouvez voir eh bien, ce qui a été produit pendant ces 3 jours. Et ça, ce sera le samedi 14, le mardi 17 et le samedi 21.
Oui, et les projections sont gratuites.
Oui, et c'est au centre Rabelais. Tout à fait. Et on peut voir combien de kinos à peu près, parce que là, je vois que ça fait plus de 3 heures de projection. Est-ce qu'on est limité dans le temps, d'ailleurs, pour faire
un kino ? Alors, on est limité dans la durée du film. On est limité à 10 minutes. Pour pas avoir justement des soirées qui durent 4 heures. Et après, c'est selon quand on voit les projets qui aboutissent aussi. Il y en a qui font des films des fois de 15 minutes, alors on dit de raccourcir. On dit, bon, c'est bon, ça passera aujourd'hui, il n'y a pas trop de films, alors vas-y, tu peux laisser. On élabore en fonction de ce qui arrive. Mais c'est 10 minutes en théorie, la durée d'un film.
Il n'y a personne qui vous embête à faire un plan à l'Andy Warhol sur l'Empire State Building. Là, il le ferait sur l'hôtel de région ou la mairie de la ville.
Sur le quorum, ouais.
Voilà, sur le quorum. Hein, je vais planter ma caméra 3 heures. Non, personne ne le fait, ça.
Non. De toute façon, il sera raccourci à un timelapse de 10 minutes.
Il sera accéléré pendant la projection. D'accord. Anthony, tu as participé, toi. Tu as réalisé déjà des kinos ?
Ouais, j'en ai réalisé quelques-uns, oui. Et j'ai participé pour parler du cabaret, au dernier kino cabaret. Mais je pense que le kino cabaret, en fait, ça pourrait être la promo d'une boisson énergisante ou du café, quoi. Parce que c'est vraiment. Donc, comme on disait, il y a des matelas. Parce que, évidemment, on a des chez nous, mais on n'y rentre plus. Parce qu'on n'a plus le temps. Et je me rappelle qu'à la dernière session, on a eu la chance d'avoir un écran vert et qu'on n'avait jamais eu d'écran vert, donc on a fait un peu les fous. Et on s'est retrouvés...
Pour faire des incrustations.
Tout à fait, ouais, pour faire des incrustes. Et on s'est retrouvés avec mon ami à dormir par tranche de 30 minutes et de réveiller l'autre. Pour
comme les
continue.
Navigateurs.
Tout à fait. On garde la barre. Donc d'accord. C'est ça en fait. On tient le navire jusqu'au bout et on arrive 10 minutes avant la projection avec le film. Et puis on stresse et puis on voit les imperfections du film direct sur grand écran devant tout le monde. Donc c'est assez un truc assez sympa.
Donc pour résumer, Kino Cabaret International, c'est du 12 au 21 avril, il y a un côté public donc, pour voir eh bien, le résultat de ces kinos, et puis eh bien, si vous voulez participer, soit en tant qu'acteur, soit en tant que monteur, soit en tant que scénariste, soit en tant que, je ne sais pas, perchman, voilà, enfin peu importe.
Maquilleur aussi.
Maquilleur, voilà, il y a tout
effets
un tas
spéciaux,
de...
Être tout nu dans une salle de bain,
allez-y. Les circassiens aussi sont les bienvenus.
Eh oui, parce que voilà, ça peut donner des idées de scénario, effectivement. Donc voilà, si vous avez envie de finalement participer à un projet collectif, parce qu'il s'agit de ça.
Tout à fait.
Et si vous avez du temps, parce que j'ai l'impression qu'il faut du temps quand
oui,
même. Hein.
Il faut être dispo.
Ouais, il faut être dispo. Eh bien, vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet kino-montpellier.fr. Vous avez des choses à ajouter ?
Venez.
Ouais, c'est ça.
Ouais, si vous êtes boulanger, charcutier, plombier, que vous êtes fonctionnaire, on s'en fout.
Si
quoi.
Vous voulez avoir un film dans votre boutique aussi, on est preneur.
Ouais, voilà. Si, la petite accroche est bien.
Ah, il faut parler dans le micro, pardon. Anthony.
La petite accroche est bien, faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant.
Ça, c'est bien. Ça aurait pu être ajouté dans la bande-annonce du kino.
Oui, c'est vrai.
On se connaît tellement par cœur depuis 10 ans. Que...
Alors, bah, vous restez avec nous, parce qu'il va y avoir un petit jeu, puis les chroniques continuent. C'est Cinérama.
Cinérama. Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Passons donc à Rec 3, Genesis de Paco Plaza. Changement de décor pour le 3e opus de Rec. Exit l'immeuble infesté de démons des 2 premiers Rec qui jouaient la carte du documentateur. Dès les premières images, le spectateur ne peut qu'étonner par le changement radical de ton. On assiste, là, un peu perturbé, à un mariage en grande pompe. L'ambiance est cependant décontractée et on se demande au départ si on s'est pas gouré de salle. Le procédé du funfuntage qui commence sérieusement à pointer ses limites est toujours de rigueur. Et la première question que l'on se pose est la suivante. Mais comment le réalisateur va-t-il tenir et justifier un tel filmage durant 1h20 ? Car si dans REC, le dispositif demeurait d'une cohérence bluffante tant au niveau de la conduite du récit que de la mise en scène, le scepticisme l'emporte sur cette suite qui, avouons-le, n'en est pas tout à fait une. Paco Plaza, seul aux commandes cette fois-ci, nous donne la réponse au bout de 15 minutes. Le générique apparaît brutalement et la suite prend un virage à 180 degrés. Les auteurs abandonnent le funfuntage et optent pour une réalisation 35 mm classique qui risque de décevoir les fans de la première heure.
Clara accepte cette alliance comme gage de mon amour et de ma fidélité.
C'est quoi ces conneries ?
Arrête !
Donne-moi ça, putain de connerie !
Le Seigneur les a enchaînés dans les ténèbres, dont ils ne ressortiront que le jour du jugement dernier.
C'est mon jour.
Vous vous êtes rendu compte de rien ? Vous allez halluciner.
La mise en place est simple. Pendant le mariage, les invités vont se transformer en démons ou zombies, enfin, peu importe, assoiffés de sang suite à un prétexte scénaristique un peu léger. Un des oncles a été mordu par un chien dans une clinique, détail qui le relie vaguement au premier et ne s'en sent pas bien. Le personnage va être le déclencheur d'une orgie grand guignol pleine de fureur et de tripailles. La réussite du premier REC incita les réalisateurs à engendrer donc une suite, donc le deuxième, handicapé par un sérieux problème d'écriture. Surtout, le film ne parvenait pas à imposer un climax terrifiant et anxiogène, qualité première de l'original. Alors, comment se renouveler ? Paco Plaza apporte une réponse qui ne satisfera pas tout le monde. Il a orienté son film vers le pur bis potache, sanglant et décomplexé, jouant constamment sur un second degré parfois bienvenu. REC 3 est un pur film de zombies, gore et survolté, qui part dans tous les sens. Dans la lignée d'un Zombieland ou d'un Shaun of the Dead, le film cède cependant souvent aux facilités à la mode, mais reste un spectacle réjouissant qui ravira les amateurs du genre. Dans un premier temps, notamment lors du prologue un peu pénible, Paco Plaza s'essaie à la mise en abîme, à la réflexion sur le cinéma de genre, mais s'avère, à contrario d'un Wes Craven, un piètre théoricien. Il ne suffit pas de parler de cinéma vérité ou de citer Jean Renoir pour renouveler une franchise qui commence sérieusement à s'essouffler. En revanche, quand il se lâche dans une deuxième partie assez démente, REC 3 parvient à se hisser au niveau des meilleurs films de genre. Des personnages iconoclastes traversent l'écran, tel un John l'éponge, venu divertir les enfants, ou le mari qui enfile la panoplie de Saint-Georges, sauf qu'au lieu de combattre les dragons, il va combattre des zombies. Certaines séquences sont hautement délirantes, comme l'échange verbal entre la mariée et une pseudo-amie d'enfance. La très jolie mariée ne comprend pas que son amie soit venue car elle l'a invitée juste par politesse et s'excuse donc de l'avoir mise dans une telle situation. Enfin, la transformation de la mariée en véritable tueuse de zombies est un grand moment de cinéma déjanté. Armée d'une tronçonneuse, dans une tenue enfin sexy, elle arrache sa robe, elle déclare grosso modo « faut pas me faire chier le jour de mon mariage » et part à l'assaut des contaminés avec une rage communicative. Donc mélange absurde de comédie romantique et d'horreur trash, REC 3, malgré ses faiblesses et surtout son manque d'ambition, parvient à remplir son contrat de divertissement pour adultes aussi inutile que jouissif. Le très beau final, d'ailleurs, apporte une petite touche poétique et surréaliste qui n'est pas sans rappeler un film comme De la Morte et De la More. On en verserait presque une larmette. Bref, au final, une série Z qui n'a plus rien à voir avec le sérieux quasi-religieux des deux premiers épisodes, mais qui apporte un peu de sang neuf à un genre moribond et peu présent finalement dans les salles obscures. James Balaguero, donc l'autre réalisateur des deux premiers, prépare d'ailleurs un REC 4 Apocalypse qui s'annonce par contre nettement plus sérieux. Bientôt sur vos écrans, je crois qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine.
En tout cas,
Apocalypse. Rien que ça. D'accord.
Après Genesis, voilà, Apocalypse. Et sinon, contrairement au REC premier, qui lui était passé au Diagonal, là, ça n'est qu'au Gaumont Multiplex et au CGR dans les gros cinémas. Hein, voilà.
C'est vraiment.
Là, il y a eu une frontière qui a été franchie.
On n'est plus dans le cinéma un peu vaguement expérimental. On est dans le pur divertissement.
Sans surprise.
Sans surprise, mais ça reste agréable.
Il n'y aura pas de surprise aussi pour Titanic.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
À l'occasion du centenaire du naufrage, James Cameron ressort son Titanic en version 3D au cinéma. Alors, lors de sa première sortie, en 98, eh bien, j'avais 11 ans. J'avais dû longuement économiser pour pouvoir me payer une place de ciné à 30 francs. Et pour vous resituer un peu le contexte historique, 98, c'était l'année durant laquelle Frank Sinatra est mort. L'année où l'on a adopté la loi des 35 heures et la période où on n'était pas encore trop mauvais en foot. J'ai donc retenté l'épreuve des 3h20 pour comparer mon premier jugement avec mes impressions d'aujourd'hui. Alors, premier changement, et ben en 98, j'avais failli mourir étouffée du haut de mes 1m40 prise dans la cohue des spectateurs qui voulaient absolument rentrer dans la salle. En 2012, même sans avoir beaucoup grandi, je n'ai pas subi le moindre mouvement de foule. Il y avait tout au plus une dizaine de spectateurs en pleine digestion d'œufs de Pâques et pas la moindre groupie pour hurler à chaque apparition de DiCaprio, d'où une baisse d'ambiance générale. L'histoire, je vous la raconte quand même en trois mots, bateau, amour, naufrage.
Nous allons en Amérique. Ne rêve pas, Boyo. Jamais tu les côtoieras, elle et ses semblables.
N'approchez pas! Je vais sauter!
Non.
Je t'interdis de revoir ce garçon.
Je suis le roi du monde! Comment avez-vous pu vous croire autorisé à toucher à ma fiancée?
Ce n'est pas à toi de me sauver, Jack.
Ils te retiennent prisonnière. Si tu ne te libères pas, tu mourras. Il y a tellement d'endroits sur ce bateau pour se cacher. Retrouvez-la.
Dès les premières minutes, me voilà terrassée par la niaiserie des dialogues dont je vous livre quand même quelques morceaux savoureux. Durant tout cet instant, mon cœur n'a cessé de battre. Bah oui, faut mieux, sinon ça peut être dangereux. Quoi qu'on fasse, il faut le faire vite. Ou encore, le cœur d'une femme est un océan de secrets. Et alors là, j'exige qu'on m'amène la tête du dialoguiste sur un plateau, parce que le problème, c'est que ça continue comme ça, jusqu'à ce que le bateau coule. Alors si les acteurs parviennent à s'approprier ces dialogues délicats avec dignité, et que leur duo fonctionne à merveille, on ne peut pas s'empêcher de tiquer en réalisant qu'ils sont supposés avoir 17 ans dans le film tout de même. James Cameron avait été jusqu'à mener des recherches sur la psychologie adolescente pour le personnage de Rose, qui a pourtant l'air d'avoir 30 ans, tandis que son méchant mari a toujours les mêmes sourcils que George Michael et un physique d'icône gay. La musique, quant à elle, qui fait tourner en boucle le même thème pendant 3 heures, s'avère rapidement très agaçante. Une BO qui se sera quand même écoulée à 30 millions d'exemplaires en ces temps lointains où le téléchargement n'existait pas. Si la musique a pris un sérieux coup de vieux, les effets spéciaux, eux, n'ont rien perdu de leur impact. Hormis les plans larges du bateau et de ses habitants qui, de loin, ressemblent fort à une animation Sims. Le scénario, eh bien, reste le plus simpliste possible pour être compris par tous les publics. Les gentils pauvres affrontent les méchants riches qui boivent du brandy. D'ailleurs, bah, autant ne pas changer une recette qui marche, hein, on nous a refait le même coup l'année dernière avec Intouchables.
Larguez les canons !
L'eau est glacée, il n'y a pas assez de canons pour tout le monde. La moitié des gens vont mourir.
Pour l'amour du ciel, il y a des femmes et des enfants ici ! Laissez-nous sortir, donnez-nous une chance ! Où allez-vous ? Le retrouver !
Si tu sautes, je saute !
J'espère que vous en profitez bien!
Et le Seigneur effacera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus.
Attention, 2 heures après le début du film, l'iceberg fait enfin son entrée en scène. Alors là, ça y est, hein, fini les Jack, je vole! Les choses sérieuses peuvent commencer. C'est parti pour de l'action rondement menée et presque crédible, si on ignore le fait que les acteurs barbotent avec délectation dans de l'eau couleur bleu piscine supposée être à 0 degré. James Cameron peut déployer l'artillerie lourde et faire étalage de ses talents de metteur en scène. Finalement, les seuls beaux moments sont ceux de panique et de désespoir, et la réalisation n'excelle que vers la fin, lorsque le rythme s'accélère vers une issue que l'on sait fatale, avec une puissance dramatique indéniable. On regrette néanmoins que la 3D ne soit pas davantage poussée pour les scènes à grand spectacle dans la dernière partie. Si elle donne une bonne profondeur de champ et qu'elle met en valeur les décors et l'action, elle reste confinée aux limites de l'écran. Pas de gerbe d'eau qui vous éclabousse, pas de proue qui se dirige vers vous. Ce sont les limites de la 3D réalisée en post-prod. Le film ayant été tourné en deux dimensions, il a fallu par la suite le remasteriser en ultra haute définition avant de retravailler chaque plan pour le convertir en 3D, d'où un résultat mitigé. Mais finalement, à la fin du film, eh bien, l'expérience n'était assurément pas dans la 3D, mais bien dans les rangs des spectateurs, lorsque la salle s'est transformée en karaoké géant au moment du générique chanté par Céline Dion. Oui, un grand moment d'émotion que j'ai vécu, presque aussi fort que le moment de la mort de Jack. Oh merde, je suis désolée. Pardon, je suis désolée, après on va encore dire que je dis la fin des films. Bon, bah, si vous voulez quand même le voir, même si vous savez comment ça se finit, bah, ça passe au Gaumont.
Et donc avec vos lunettes 3D, ce qui est assez étonnant hein, pour James Cameron qui avait fait un bon Avatar avec des effets 3D qui n'ont jamais été encore régalés, je pense. Et il s'est mis à critiquer tout un tas de films effectivement qui avaient utilisé la 3D de manière un peu légère. Donc étonnant qu'il se mette à ressortir son petit technique.
Disons qu'il aurait pu se permettre de le remasteriser en fait, et de le ressortir comme ça, ça aurait eu autant de succès et ça aurait été de toute façon bien fait. La 3D n'était pas efficace. Mais par contre, les lunettes ont bien évolué maintenant. Elles sont très légères, très supportables pendant 3 heures.
Merci Marine.
Pour cette précision technique.
Allez, maintenant on va jouer. On va jouer donc au blind test avec l'équipe du Kino. Il faut chausser le casque ou... Ou toi, Anthony, ben non, tu n'as pas de casque, tu es l'orphelin de ce studio. Mais tu vas pouvoir écouter, voilà, ce premier extrait.
Auriez-vous oublié votre promesse ?
Soumise aux impératifs du service. Je ne peux en conscience nous retarder pour l'étude d'un pécari géant ou d'un iguane. Fascinant, je vous l'accorde, mais sans utilité immédiate.
Il y a là, je crois, une opportunité réelle de combler respectivement nos attentes. Cette île est longue et étroite. Votre route va nous obliger à la contourner. Or, je pourrais la traverser et me trouver
Stéphane,
de l'autre côté.
Stéphane, par expérience, je vous sais capable d'observer un nid d'oiseau vide pendant des heures.
J'avancerai sans m'attarder, ne m'arrêtant ici et là que pour effectuer les mesures les plus importantes. Et par là même faire des découvertes qui assurément viendront enrichir notre savoir en histoire naturelle.
Nous aurions le vent et la marée contre nous, je vous l'accorderai. Ce n'est pas le cas, et je me vois contraint de dire non.
Je vois. Ainsi, après tout ce temps passé au service de mon pays, je n'ai qu'à me résigner à prendre part à cette expédition guerrière sans porter de jugement. Je devrais me réduire à ignorer de pures merveilles et ne penser qu'à la destruction. Et encore, je ne dis rien sur la corruption du pouvoir.
Pensez-vous, docteur, vous vous égarez.
Non, Jack, non. C'est vous qui vous égarez. Je sais que pour ma part, lorsque je promets, je tiens parole.
C'était une promesse sous condition.
Et je n'ai jamais senti un seul instant de sagesse ou
de
contrairement pour vous.
Nous ne sommes pas là pour satisfaire vos caprices.
Eh ben, alors, ça a été trouvé. Anthony.
Ouais, c'est Master and Commander, et décidément, ils mettent des Jacks sur tous les bateaux.
Après, oui, il y aura eu Jack Sparrow. Voilà, Master and Commander, film de Peter Weir, 2003, me semble-t-il.
La sortie est par là. Et c'est notre seule chance.
Mesdames et messieurs, ne l'écoutez pas. Nous devons rester ici en attendant du secours, et nous ne bougerons pas.
Du secours, d'où ?
Du commandant, peut-être. Il est mort. Toutes les personnes qui étaient sur le pont au moment où le navire a basculé sont mortes parce qu'elles se trouvent maintenant au-dessous de nous, sous l'eau.
Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est faux !
Non, c'est la vérité, imbécile prétentieux ! Il n'y a personne de vivant à part nous. Et nous ne pouvons compter sur personne excepté sur nous-mêmes. C'est l'affaire de chacun de vous. Nous sommes tous concernés, tous ! Ne perdez pas de temps, venez avec moi !
Je vous interdis de me suivre ! Il ne connaît rien à ce bateau, il nous mène à la mort !
Le commissaire a raison !
Pas de vos affaires !
Ça a été trouvé, Manu.
L'aventure du Poséidon, donc là c'était avec Gene Hackman.
Oui, qui a remporté le BAFTA du meilleur acteur. Voilà.
Ah mais c'est récent en fait.
72.
72, oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, non mais la cérémonie existe, enfin voilà, depuis un certain temps quand même. Troisième extrait, je rappelle aux auditeurs que nous jouons pour découvrir donc des films avec des bateaux qui vont sur l'eau.
Allons, allons, petit, sois raisonnable.
Descends de là, viens par ici.
Pour me faire manger ?
C'est une loi de la nature, foutre Dieu. Le plus fort mange le plus faible. Allez, quoi, descends, mets-y un peu du tien.
Cannibal.
Mon petit cochon.
Je suis pas un cochon, je suis la grenouille. Français de Saint-Malo.
Ah.
soulevant à nous.
Le diable t'emporte, la grenouille. Je t'avais pas dit d'avoir confiance en moi. J'avais raison une fois encore.
Oui, capitaine.
Mets-toi bien ça dans la tête d'aller fricouille.
Ça a été trouvé, Marion.
Oui, c'est Pirate.
Voilà. Film de Roman Polanski avec donc eh bien, le vieux pirate qui veut manger son matelot, qui est obligé de monter en haut du mât. L'avant-dernier extrait.
On veut nous faire revivre les événements de 1941. Mais qui ça?
Les Russes. Peut-être parapsychologie.
Excusez-moi, commandant, mais nous devons aussi considérer qu'il peut y avoir une autre possibilité.
Laquelle?
La possibilité que tout ce qui se passe soit la réalité.
C'est ridicule.
Peut-être. Pourtant, nous avons un certain nombre de preuves à l'appui. Il ne faut pas barrer d'un trait de plume une explication sous prétexte qu'elle n'a pas l'air de plaire.
Mais comment serait-ce possible, monsieur Lasky? Vous pouvez expliquer, vous, une chose pareille?
Non. Mais nous savons tous que la relativité du temps existe. C'est un phénomène qu'Einstein a démontré.
En théorie.
Si je vous suis bien, il suffit d'essuyer une bonne tempête et paf, nous voilà redevenus plus intelligents qu'Einstein. Parce que vous appelez ça une tempête. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu.
À rien de ce qu'aucun d'entre nous a connu.
Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace courbe. Ce sont des notions aussi insolites que l'électricité au Moyen-Âge ou que ce bâtiment en pleine guerre de 40.
Film de 1980, Manu.
Nimitz, Retour vers l'enfer.
Voilà, mais en fait, le titre original, c'est The Final Countdown. Mm-hmm. Voilà, ça a été traduit un peu n'importe comment. Et donc, film de 1980 avec Kirk Douglas, assez étrange quand même, mais voilà, film de science-fiction.
Science-fiction, oui, réalisé d'ailleurs par un réalisateur qui a fait des films pour la Hammer dans les années 70. Je crois que c'est Don Taylor.
Ah bah, je ne sais même pas si je l'ai noté. Oui, Don Taylor, bravo Manu. Tu as 2 points sur ce coup-là. Allez, c'est le dernier extrait. On va faire une petite jonction avec le film Radio Star. Et on ne va pas se retrouver sur un bateau. C'est une des rares scènes, enfin une des quelques scènes qui ne sont pas sur le bateau.
Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Les stations de radio pirates. Bien. Alors, j'ai dit au Premier ministre que nous serions capables de les faire taire en moins d'un an.
Oui, vous constaterez, sœur, que ces radios n'enfreignent aucune de nos lois pour le moment, sœur.
Elles le feront certainement bientôt, monsieur...
Fredericks.
Voyez-vous, le privilège d'appartenir au gouvernement dès qu'une chose vous déplaît, c'est de promulguer une loi qui rendra cette chose illégale. D'ailleurs, à ce propos, monsieur...
Fredericks.
Oui, sir. Je pense qu'il serait opportun de travailler sur une législation qui interdirait votre coupe de cheveux.
Elle vous déplaît, sir?
À qui plairait-elle? À part aux aveugles, peut-être. Je pense même qu'il ressentirait son immense laideur rien qu'en passant près de vous. Je vous donne un jour pour régler cette affaire de cheveux et 15 pour celle des pirates. Au revoir!
Eh ben, une histoire de pirate, mais pirate eh bien de la radio libre. Marine, c'est...
Good morning England. Oui, et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un Jack aussi. Non, mais possible. J'ai vraiment un doute.
Il faut dire qu'ils sont beaucoup sur le bateau, hein, beaucoup à faire de la radio. Film sorti il y a 2 ans, à peine. Voilà. Ainsi s'achève ce blind test spécial bateaux qui vont sur l'eau, avec un 5 sur 5, voilà, réalisé par ceux qui sont dans le studio.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Alors forcément, on est encore pressé aujourd'hui. On va écouter Souma, qui est le directeur du festival ou des rencontres Quilombo. Je l'ai rencontré hier sous l'orage. On écoute. Alors Souma, le festival Quilombo a déjà débuté, il va s'achever ce dimanche 15 avril, donc on va essayer de dérouler un peu le programme hein, à partir du jeudi 12, et notamment ce qui va se passer à la médiathèque Federico Fellini. On le rappelle, l'entrée est absolument libre. Et notamment, jeudi 12 avril, un ciné-théâtre avec des extraits du film Au Royal, Indépendance africaine.
Le ciné-théâtre Au Royal, c'est un film que j'ai réalisé moi-même. Qui parle un peu de la perception des indépendances africaines, les bilans des indépendances africaines. Et j'ai essayé aussi de passer le miroir sur mon peuple, hein, voir quelles sont les réflexions qui le taraudent. Ensuite, il y aura une présentation d'une lecture théâtralisée de mon roman, Kalachnikov Blues, que j'ai réadapté, avec la complicité du metteur en scène Sébastien Lagor, de la compagnie Astrolab. D'ailleurs, un grand merci à la compagnie Astrolab qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet.
Le vendredi 13, alors là, il y a 2 films à voir. Chronique de guerre en Côte d'Ivoire de Philippe Lacote à 16h et puis à 17h, un transport en commun de Diana Gaye.
Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, c'est un documentaire qui est assez déroutant par la nature même de l'auteur. Justement, je pense que cet auteur caractérise vraiment les cinémas d'Afrique aujourd'hui. C'est un auteur qui est métis, franco-ivoirien, et qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire quand il y a eu la tentative de coup d'État en 2002, et qui raconte une histoire vraiment atypique, déroutante. Donc j'invite les gens à venir voir, je ne vais pas dévoiler l'intrigue. C'est une histoire qui part de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux événements de Côte d'Ivoire, mais que cet auteur la porte en lui, dans son histoire familiale, dans son hérédité. Et ensuite, Un transport en commun, c'est un court-métrage aussi atypique parce que c'est une comédie musicale qui a été réalisée, un court-métrage de Diana Guy qui a eu pas mal de prix au Festival de Clermont-Ferrand et à Milan.
Mais où est passé le 7e passager ? On va tout de même pas y passer la journée. Il est attendu, garde des pompiers. Finira-t-il par se présenter ?
Qui se déroule au Sénégal sur l'histoire des transports en commun et puis de la notion de déplacement en communauté.
On passe ensuite à bien une grosse journée, celle du samedi 14 avril, toujours à la médiathèque Federico Fellini, dans un premier temps à 14h avec Un matin bonheur.
Pas de travail, pas d'argent. On gagne des maladies soignées partout ailleurs. Qui va vouloir rester ? Dieu n'aime pas l'Africain, les Africains.
Un matin bonheur, ce film rentre dans le grand angle sur la Guinée. C'est un film qui a été réalisé par Gaïté Fofana en Guinée sur un drame qui s'est déroulé dans les années 90. Deux jeunes enfants, des adolescents, sont rentrés dans le train d'atterrissage d'un avion et ont essayé de venir clandestinement en France. Et évidemment, ils sont morts à l'arrivée. Et c'est tout ce qui a précédé ce départ qui est raconté dans ce film, avec une certaine maîtrise et un certain brio.
Et ensuite, donc, c'est à l'espace Martin Luther King. Alors, en même temps, à 14h, Tessa la Rosée. Enfin, là, je vais vous laisser développer ce qui va se passer, parce que c'est toute une après-midi de 14h à 20h.
Tessa la Rosée, c'est un film d'Aile Guérima, qui est c'est une personnalité du cinéma d'Afrique. C'est quelqu'un qui est enseignant aux États-Unis, qui est un très beau film aussi, qui parle de l'Éthiopie, l'histoire du passé communiste de l'Éthiopie, et puis le désenchantement d'une certaine diaspora qui essaye de rentrer au pays pour essayer de développer le pays. Ensuite, il y a Ramata de Alain Léandre Baker, qui se passe au Sénégal. Mais c'est un film avec pour artiste principal, actrice principale, Katoucha, le mannequin. Katoucha qui est morte il y a 2 ans, je crois. Et donc c'est une intrigue policière, c'est l'adaptation d'un roman policier. Là encore, c'est un cinéma de genre qui est assez nouveau en Afrique.
Tu as fait du chemin depuis ton village. Tu es devenue une femme riche, sans avoir trimé. J'avoue que tu dois avoir une très bonne étoile, Ramata.
Rêve de poussière parle des orpailleurs au Burkina Faso, avec toute cette dynamique de personnes qui forent la terre aride du Sahel pour essayer de trouver des diamants ou pour trouver de l'or et tout.
Bon, si tu trouves de l'or, je prends 2/3. Le tiers restant, vous le partagez entre orpailleurs. Tant que ces fenêtres ne remontent pas d'or, je les paie 1000 francs jour. Pareil pour toi.
C'est qui que tu traites de fainéant ? Ne dis pas que ça t'est prise de te curer les dents à longueur de journée.
Hé, hey, toi l'informaticien, tu n'es pas payé pour m'interrompre.
Ensuite, à 20h, il y a un débat sur le thème « Quel avenir pour la Guinée ?» où on invite des personnalités à parler de la situation en Guinée, à parler des perspectives pour la Guinée, à réfléchir sur la Guinée.
On passe maintenant au dimanche 15 avril, ce sera le dernier jour de ce festival Quilombo, à la médiathèque Federico Fellini, avec deux films à 15h et 16h, « À la Tantou » et « Le fleuve » de Mama Keïta.
Mais on peut dire que dimanche, ça rentre aussi dans la programmation du grand angle sur le cinéma et sur la Guinée. C'est aussi une journée hommage à un réalisateur qui est décédé, qui s'appelle David Ashkar, qui avait fait un film qui s'appelait « À la Tantou » sur l'histoire de son père qui a été ambassadeur de la Guinée à l'ONU, qui a été incarcéré à un moment où la Guinée a le président guinéen a une dérive autoritaire. Et ce documentaire met en scène des images d'archives, des archives familiales, et puis la réalité de carcérale hein, de la Guinée. Et ce réalisateur, David Ashkar, avait pour projet un film qui s'appelait « Le fleuve », qui n'a pas pu réaliser parce qu'il est décédé, et c'est son ami Mama Keïta qui l'a réalisé à sa place.
Je suis allé là-bas, faut que je te raconte. Si tu voyais cette lumière.
Comment vous appelez-vous ?
C'est écrit sur mon passeport.
Où je suis ici ?
C'est le pays de ton père et de ta mère.
Si elle est bienvenue.
Qu'est-ce que je fous dans ton putain de croire, hein ?
Dieu t'insulte, là !
Voilà, le festival Quilombo, cette 8e édition, s'achève donc le 15 avril. On peut avoir encore plus d'informations sur Internet avec le site
www.regard-quilombo.com.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
On arrive maintenant à l'agenda, il n'y a pas grand-chose, enfin je n'ai pas noté grand-chose, c'est plutôt ça. Le lundi 16 avril à l'Utopia, il y a une projection unique en présence de la réalisatrice du documentaire Le cimetière des vivants, c'est Audrey Hoc. Et ce documentaire est une plongée dans la vie du centre de rétention d'Andaï, un des 26 centres de rétention de France à deux pas de l'Espagne. Et puis passe toujours à l'Utopia, 38 témoins, Bovine, Bruegel, Le Moulin et la Croix, Chronicle, qu'on avait chroniqué ici, Elena, Entre les bras, La cuisine en héritage, qu'on avait chroniqué ici, Hasta la vista, La grande illusion, Les nouveaux chiens de garde, Terra Firma et The Descendants. Ainsi s'achève tranquillement, oui, non, mais bien sûr le Kino, mais je comptais bien terminer avec vous. Et on n'oublie pas, donc, avec le festival Quilombo, il y a aussi le Kino Cabaret International. On donne les dates, est-ce qu'on peut y faire en
alors
deux mots?
Avec, pour faire des courts-métrages en des temps très courts, il y a trois sessions, une du 12 au 14, une du 15 au 17 et une du 18 au 21. Et trois projections gratuites donc au Centre Rabelais, les 14, 17 et 21 à 20h.
Voilà, donc un côté public et puis un côté on fabrique des films. Et l'essentiel, c'est de vivre ensemble. Voilà,
c'est avec de s'amuser, de participer et, voilà, et tout le monde est le bienvenu.
Partager
la création.
Oui, ça c'est ce que vous mettez pour avoir les subs. D'ailleurs, vous en avez des subs ou pas? Non, quasiment rien. Enfin, la mairie vous aide, hein, elle
oui,
vous prête les salles, voilà. Notamment la maison pour tous.
Tout à fait.
Faire avec Chopin. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, pas du tout.
D'accord. Ainsi s'achève quasiment Cinérama. Hein.
Oui, je vous parlerai finalement de À moi seul la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas eu le temps. Je devais choisir entre le film à 20 000 entrées et celui à 20 millions, donc voilà, c'est fait. Juste pour vous préciser que juste après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes, votre rendez-vous hebdomadaire de la musique au cinéma, consacré cette semaine à Frank Waxman.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
On remercie nos invités pour cette patience. Et
merci,
on leur souhaite bon courage pour le cabaret. La semaine prochaine, on retrouvera une émission un peu traficotée qui ne sera pas en direct. On fera ce qu'on pourra.
Merci Bruno à la technique. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.